Un homme plongé dans la boue n'a pas besoin qu'on vienne lui faire des discours sur la saleté de la boue. Il a plutôt besoin d'une main compatissante à laquelle il peut s'accrocher pour sortir de la boue. Nous sommes cette main compatissante.
Merci. Eh bien, nous tournons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 2. Nous allons relire le texte que nous avons lu dimanche passé, du 1er au 7e verset. Apocalypse chapitre 2, du 1er au 7e verset, la Bible dit ceci. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point fatigué. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de mon Père. Merci Seigneur notre Dieu. Ce thème, nous l'avons commencé dimanche passé et il est intitulé « Rallume la flamme de ton premier amour pour ton Dieu ». Je vous ai fait comprendre que mon objectif était de vous encourager, oui. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin à aimer Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un ce matin à rallumer la flamme de son premier amour pour son Dieu. La lecture du texte d'Apocalypse chapitre 2 que nous venons de faire nous a révélé que nous avons affaire ici à une lettre que le maître a adressée aux fidèles de l'église d'Éphèse dans le but de les encourager à rallumer la flamme de leur premier amour. Je vous ai fait comprendre aussi que aujourd'hui, cette lettre ne s'adresse pas aux fidèles de l'église d'Éphèse, mais c'est une lettre qui t'est adressée à toi. Le message central de cette lettre pour toi, c'est que le Seigneur veut te voir rallumer la flamme de ton premier amour pour lui. C'est-à-dire, le Seigneur veut que tu puisses l'aimer. L'étude de ce texte nous a révélé l'existence de 5 choses importantes que j'ai commencé à analyser avec vous depuis le dimanche passé. La première chose sur laquelle j'ai insisté dimanche passé est que en notre qualité des enfants du royaume, nous devons savoir apprécier les qualités des autres. Nous devons savoir apprécier les bonnes œuvres des frères et des sœurs qui sont autour de nous. Nous devons savoir apprécier à juste titre ce que notre mari fait de bien, ce que notre femme fait de bien, ce que notre enfant fait de bien, ce que notre ami fait de bien. Il est dommage d'observer que l'homme adamique n'est pas capable d'apprécier à juste titre ce que son frère fait. L'homme adamique a exercé son œil pour ne voir que le mal de son frère. Même s'ils ont vécu ensemble pendant des dizaines d'années, le jour où il commet le premier mal, c'est ce jour-là que son ami, son frère, son mari, sa femme devient lui-même l'enfer sur la terre. Cette façon de voir les choses n'est pas bonne. Cette façon de voir les choses n'est pas biblique. En lisant la lettre à l'église d'Éphèse, nous savons bien que Jésus-Christ s'apprête à faire un reproche sévère aux fidèles de l'église d'Éphèse qui ont abandonné le premier amour pour lui. Mais nous le voyons au deuxième verset, au troisième verset et au sixième verset, prendre le temps de relever leur qualité, prendre le temps de les apprécier, prendre le temps de les féliciter, de les louer. Il les félicite pour leur travail. Quand quelqu'un travaille, frère, il faut savoir le dire. Il faut savoir le féliciter. Nous appartenons parfois à une culture. Lorsque quelqu'un fait quelque chose de bien, on s'éteint. Mais dès qu'il commet un petit forfait, on saute avec toute la puissance de l'enfer pour le démolir. Je vous ai fait comprendre dimanche passé que vous le vouliez ou pas, tout homme sur la surface de la terre est capable de faire le bien, il est aussi capable de faire le mal. Toi, tu fais le bien, tu fais aussi le mal. Lorsque le maître dit que ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil, avant de te préoccuper à enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin, ce qu'il veut nous dire par là, c'est que nous tous, nous avons des défauts. Nous tous, nous avons des faiblesses. Et si tout le monde prend le temps à cataloguer les faiblesses et les défauts de son frère, la vie devient invivable dans la société. Voilà pourquoi le maître commence par relever ce qu'il y a de positif chez les fidèles de l'église d'Éphèse. Dis que je connais ton travail, je te félicite pour cela. Je connais tes bonnes œuvres, je te félicite pour cela. Je sais que tu n'entres pas en alliance avec les méchants. Je te félicite pour ça. Je sais que tu ne fais pas des cadeaux aux faux ministres de Dieu. Je te félicite pour ça. Je sais que tu es toujours en opposition avec les partisans de la doctrine des Nicolaïtes. Je te félicite pour cela. Bref, la première chose que ce texte nous a enseigné, c'est que nous, en tant que les enfants du royaume, nous devons apprendre à apprécier nos prochains à juste titre. La Bible dit que chacun de vous parle à son prochain selon la vérité. Amen. Votre frère a fait quelque chose de bien, dis-lui, merci frère Jean-Marie, tu fais quelque chose de bien. Ça va l'encourager à faire encore le bien. Amen. Et là où il a fait quelque chose de mal, dis-lui aussi, amen, que frère, ça, tu as fait quelque chose de mal. Parfois, nous devenons complices au péché des autres. Amen. Vous vous dites que non, si je lui parle, il va fuir l'église. Qu'il fuit l'église, frère. Ce n'est pas ton église à toi, c'est l'église de Dieu. Amen. Mais tu l'auras aidé en lui disant la vérité. Non, frère, regarde ce que tu fais là. c'est dangereux pour toi, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Oh non, 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 attention, si tu lui dis, il peut quitter. Frère, tu n'as pas le pouvoir de lier quelqu'un pour l'attacher ici.
Amen.
Mais néanmoins, en lui disant la vérité, tu l'auras aidé à demeurer dans la parole et tu l'auras aidé à purifier sa relation avec son Dieu et à devenir important. Un jour, lui aussi pourra te dire la vérité, il va t'aider.
Amen.
Voilà la raison pour laquelle Dieu nous place les uns à côté des autres. La deuxième chose, en notre qualité d'enfant du royaume, nous devons aimer Dieu avec notre cœur tout entier.
Amen.
Je martèle sur ça, frère, sœur. Aime Dieu.
Amen.
Aime Dieu, je te le dis. Dieu t'a fait grâce de le connaître, de venir à l'église. Fais de ton amour pour Dieu la préoccupation même fondamentale de ta foi.
Amen.
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 Pourquoi tu dois aimer Dieu? Aime Dieu parce que jour après jour, Dieu te fait du bien.
Amen.
Nous avons été témoins de ce qui s'est passé cette semaine au Canada. Ce qui m'a beaucoup touché, c'est les deux soldats qui étaient au monument du souvenir à Ottawa. Mais lorsque le meurtrier arrive, il tire sur l'un, il laisse l'autre. Pourquoi l'autre est resté? Le type ne les connaissait pas, il est arrivé. Mais il a tiré sur l'un, il a laissé l'autre. Il n'a pas réussi. Il va dire au chauffeur, libère la voiture. Mais il était armé. Il pouvait descendre le chauffeur. Frères, sœurs, parfois nous sommes très rapides dans nos jugements. Parfois nous croyons que le monde est toujours ce qu'il est aujourd'hui. Mais je vais te dire que ce que tu es aujourd'hui, c'est la manifestation de l'amour de Dieu dans ta vie.
Amen.
La Bible dit qu'il est le Dieu qui donne à tous la vie, l'être et le mouvement. Si tu peux compter ses bienfaits dans ta vie, si tu peux compter ce que Dieu fait jour après jour, frère, tu vas découvrir tout simplement que l'homme est ingrat envers ses dieux. Aime d'abord Dieu parce qu'il est Dieu. Il est ton père. Je l'aime pourquoi? Je n'ai pas de justification à donner. Je l'aime parce qu'il est Dieu. Et si j'ai quelque chose à ajouter, je vais l'aimer parce qu'il prend soin de moi. Il prend soin de ma famille. Il prend soin de mes frères, de mes sœurs. Il est mon Dieu. Tout le monde qui sort le matin ne retourne pas nécessairement à sa maison le soir. Mais qu'est-ce qui fait que moi je sors, je retourne? C'est parce que la miséricorde de Dieu est encore sur moi. Et à cause de cela, il faut que j'aime Dieu. Il faut que j'aime Dieu. Il prend soin de moi. Je dois aimer Dieu parce qu'il m'a aimé le premier. L'apôtre Paul dit que même lorsque nous étions des méchants, des malfaiteurs, haïssables et dignes d'être haïs. C'est-à-dire, si quelqu'un nous haïssait, il avait raison de nous haïr. Mais en ce moment-là, Dieu est venu nous aimer. Alors que nous n'étions même pas dignes d'être aimés, frères. Je vous ai fait comprendre dimanche passé que l'amour a la vocation d'être réciproque. C'est-à-dire, on aime celui qui aime. Comme Dieu nous a aimés le premier, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous puissions lui répliquer cet amour. Je t'encourage, mon frère, à aimer Dieu avec ton cœur tout entier. Et Dieu veut que nous puissions l'aimer. Il est de la volonté de Dieu que nous puissions l'aimer. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Shema Israël, écoute Israël. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Alors, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça, c'est le commandement de l'Éternel. Et il le précède par un appel à l'attention. Il dit que, écoute Israël, prête oreille Israël. Ce que je te dis est très important. Parce que l'Éternel, notre Dieu, est l'unique Dieu, est l'unique Éternel.
Amen.
Alors, tu dois l'aimer. Pas l'aimer avec un amour de second plan, mais tu dois l'aimer avec ton cœur tout entier. Parce que s'il décide de t'arracher ce cœur, tu ne pourras pas l'utiliser pour aimer une fille qui passe dans la rue.
Amen.
Tu vas l'aimer avec toute ton âme. S'il te rend fou aujourd'hui, tu ne seras pas capable de développer des théories scientifiques. Donc, permets à ton mental, à ton spirituel, d'aimer ce Dieu puisqu'il en est l'auteur. Et tu vas l'aimer de toute ta force. S'il te coupe les deux mains et les deux jambes aujourd'hui, frère, tu vas chercher quelqu'un d'autre pour venir te donner à manger. Voilà que tout ce que nous avons, c'est un don de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions l'utiliser pour l'aimer avec ça. Aime Dieu, frère. J'insiste ce matin. Je te conseille. Aime Dieu. Aime Dieu avec ton cœur tout entier. La Bible dit que celui qui m'aime ou qui aime sa femme plus que moi, qui aime son frère plus que moi, il n'est pas digne du royaume de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans l'ordre des priorités, notre premier amour, c'est à Dieu.
Amen.
Et après Dieu, je peux aimer ma femme, je peux aimer mon enfant, je peux aimer mon frère et ma soeur. Et d'ailleurs, en commençant par aimer Dieu, lorsque mon amour transite par Dieu et il tombe sur ma femme, ça sera le vrai amour.
Amen.
Mais lorsque je l'aime, j'aime ma femme, sans transiter par Dieu, c'est un faux amour. Raison pour laquelle parfois, là où c'était supposé être le berceau de la paix, ça devient parfois le parlement ou le cours, le tribunal ou le matin. Là où c'était supposé que quand quelqu'un rentre, il est heureux, dès qu'il arrive à la porte, il voit la porte de sa maison, la pression monte. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui a raté dans l'amour, qui n'a pas purifié cet amour. Quand tu commences par aimer Dieu, n'est-ce pas? C'est lui qui va te rendre capable de bien aimer ta femme. C'est lui qui va te rendre capable de bien aimer ton mari. C'est lui qui va te rendre capable de bien aimer ton frère, ta soeur, au sein de l'église de Dieu. Nous devons aimer Dieu, mon frère, ma soeur, avec notre cœur tout entier. Et lorsque, dans Matthieu chapitre 22, un docteur de la loi vient voir Jésus-Christ, et ce docteur était animé d'une très mauvaise intention. Il a observé que Jésus a réduit au silence les pharisiens, les sadducéens. Lui, il est venu et dit que je veux voir avec ce petit aujourd'hui. Dès qu'il rencontre le maître, il dit que non. Maître, dis-moi selon toi, quel est le plus grand commandement de tous les commandements dans la loi de Dieu? Et Jésus n'a pas hésité. Jésus lui dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Voici le plus grand commandement de tous les commandements. Oui, c'est la vérité. L'amour de Dieu, c'est ça le plus grand commandement, oh mon frère, ma soeur. Dieu veut que nous puissions l'aimer. Et dimanche passé, j'ai soulevé une question avec vous en vous disant, mais aimer Dieu, c'est quoi? Et j'ai répondu à cette question en vous disant que la Bible ne nous donne pas la définition de l'amour. C'est la philosophie qui donne la définition théorique de l'amour. C'est un élan du cœur. Un élan du cœur, qui le voit? Mais Dieu lui donne, nous, à nous, il nous donne des indices qui manifestent l'amour que nous avons pour lui. Il nous donne des indices qui reflètent l'attitude que nous avons, la disposition de notre cœur, lorsque nous faisons quelque chose pour ce Dieu. Et nous avons vu que parmi ces indices, il souligne les œuvres. Donc, ce sont nos œuvres qui manifeste l'amour invisible qui est dans notre cœur. Et parmi ces œuvres, nous en avons cité quelques-unes. Nous avons dit d'abord le désir de demeurer dans la présence de Dieu, celui qu'on aime. Et lorsque tu as une femme que tu aimes, surtout quand c'est le premier jour ou le deuxième jour où tu es frappé par un coup de foudre, il peut t'arriver même de perdre le chemin dans le métro au lieu d'aller à Rigourassa. Tu prends la direction Côte-Vertu, tu ne te rends pas compte. Et quand tu arrives à Bérikam, tu descends, tu dis que maintenant je vais à Henri Bourassa, tu te retrouves encore en direction de votre vertu. Et lorsque tu la vois, même si tu n'as rien à faire, tu es toujours là. Comment ça va? Comment ça va? Juste quoi? Ce que je dis, c'est vrai. Juste quoi? C'est la présence, tout simplement. Donc, je voudrais passer du temps dans la présence de celui que j'aime. Juste ça. Cette présence-là me comble. Et Dieu, notre Père, lui, il a besoin que nous puissions passer du temps dans sa présence. Nous l'avons dit dimanche passé, par la prière, par la méditation, tout ce qui plaît à Dieu, nous sommes là. Et nous sommes là avec notre cœur tout entier, frère. Une autre œuvre, c'est l'obéissance. Celui qui aime Dieu obéit à son commandement. Dieu dit, ne vole pas. Si tu aimes Dieu, tu ne voles pas. Dieu dit, aime ton prochain. Si tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain. Dieu dit, va me prier. Si tu l'aimes, tu vas le prier. Tu n'auras pas de calcul à faire. Écoutez-moi, frère bien-aimé. Nous vivons dans un monde totalement corrompu. Nous vivons dans un monde, au milieu d'un monde hypocrite. Mais malheureusement, cette hypocrisie est amenée jusque dans l'église de Dieu. Nous vivons dans le monde du paraître. S'il y a quelque chose que je déteste dans ma foi, c'est le paraître, frère. Dieu ne juge pas quelqu'un sur base de ce que vous pouvez faire. Sur base des ébullitions, des mouvements. Non, Dieu juge quelqu'un sur base du cœur. Et je fais un effort, je vous le dis sincèrement, je fais un effort pour paraître devant Dieu avec mon cœur et non pas avec le paraître. Je vous ai déjà dit que s'il était permis de se cacher au bureau, d'utiliser le micro pour prêcher, je serais le premier à le faire. Ça m'importe peu de me tenir devant vous pour partager la parole de Dieu. Mais parce que c'est une exigence, mais je n'ai pas de choix. Pourquoi? On a développé la culture du monde où tout ce qu'on fait, on le fait pour apparaître, pour impressionner les gens. Frère, il faut impressionner Dieu. N'impressionne pas les gens. Je vous dis la vérité, il faut impressionner Dieu. N'impressionne pas un homme. Ne fais même rien pour qu'un homme m'acclame. Ils ont acclamé Jésus-Christ quand il est monté à Jérusalem, assis sur le dos d'un âne. Et une semaine après, ils ont crié à haute voix, à mort, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Notre démarche dans le ministère nous a fait voir ces choses-là. Nous le voyons jour après jour. Il y a des gens pour qui on a sacrifié tout. Il y a des gens pour qui on a voyagé en pleine nuit, au risque même de notre propre vie. Mais quelques jours après, ces gens-là vous ont balancé comme si vous n'aviez jamais existé dans leur vie. Est-ce qu'on doit les en vouloir? Non. C'est comme ça. C'est comme ça que les choses se passent. C'est ça la vie du ministère. C'est ça la vie de l'église. Mais ce que vous, vous devez faire, quand vous savez que non, je le fais pour Dieu, même lorsque l'homme va vous décevoir, vous allez continuer à le faire pour les autres parce que vous savez que votre récompense, vous la tirez du ciel et non d'un homme. Frères, sœurs, et mon Dieu, je vous le dis sincèrement ce matin, aime Dieu, ne cherche pas à impressionner quelqu'un. Aime Dieu avec ton cœur tout entier et Dieu le réclame. Il les reproche à l'église d'Éphèse, il leur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour pour moi. Amen. Pourquoi Dieu va dire à l'église que je t'en veux parce que tu as abandonné ton premier amour? Parce que Dieu veut que nous puissions l'aimer. C'est le plus grand cadeau que nous nous faisons à Dieu, c'est de l'aimer. C'est une marque de reconnaissance. L'homme adamique est toujours ingrat. Ce qui se passe dans la politique là, c'est parfois ce qui se passe dans des églises de Dieu. Un certain premier ministre approche un secrétaire. Viens, petit, tu vas être mon secrétaire. Le petit vient, il est son secrétaire. Quelques temps après, le petit le tue, il prend le pouvoir. C'est ça dans la politique. Mais malheureusement, il y a des choses comme ça qui commencent à infecter l'église du Dieu vivant. Frère, sœur, aime Dieu. Je t'ai dit, aime Dieu de tout ton cœur. Et quand tu vas aimer Dieu, n'est-ce pas? Tu verras beaucoup de choses changer dans ta vie, changer dans ta marche avec lui. Aimer Dieu aussi, c'est savoir lui donner. Nous l'avons défini dimanche passé que la Bible dit, car Dieu a tant tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. La manifestation de l'amour c'est le fait de donner. Donner quoi? Donner du temps, donner le cadeau, donner le service, donner tout. Vous devez, si vous aimez Dieu, vous devez être disposé à lui donner quelque chose. Et vous devez le faire avec votre cœur. Vous devez être disposé à lui donner votre argent. Il y a une doctrine présentement qui est en train de circuler. Oh, on ne peut plus donner la dîme à l'église. La dîme n'est pas de ce siècle. C'est bien. Quand papa Léopold va déposer l'argent en banque, lorsque le banquier compte l'argent, il dit ça c'est la dîme, je mets à côté. Ça c'est l'offrande, ça vient ici. Ça c'est quoi, ça va là-bas. Frère, ce sont des questions inutiles. Paul dit que, en parlant aux Corinthiens, quand je suis venu vers vous, je n'ai eu d'autre pensée que de savoir Christ et Christ crucifié. La grande chose que nous devons savoir auprès d'un frère, auprès d'une sœur, c'est d'abord le Christ et le Christ crucifié, lui qui est l'auteur de la vie. L'argent, c'est quoi? Toi, tu vas me dire que je ne donne pas la dîme, ne me donne pas la dîme, mais je te dis, donne-moi l'argent pour que je voyage et je vais payer. Ceux-là même qui disent qu'on ne donne pas la dîme, ils sont en train de payer des appartements. Mais vous payez des appartements avec quoi? Vous pensez que c'est le mot dîme qui change les choses? Ce qui change les choses, c'est quoi? Vous vous dites que ne donnez pas la dîme, mais vous raflez des milliers d'argent aux gens. Vous êtes un brigand. Et tout ça, c'est quoi? C'est la distraction, tout simplement. Au lieu de revenir au message central de l'église, d'aimer Dieu. Quand quelqu'un aime Dieu, il va lui donner. Ce n'est pas seulement l'argent. Tu vas donner l'argent quand tu en as. Tu vas donner ton temps. Tu vas donner tes qualités. Tu vas donner ton potentiel. Tu vas donner à Dieu en commençant par ton propre cœur et ta propre vie.
Amen.
Et c'est le fait de donner qui est la manifestation de notre amour pour notre Dieu. J'ai insisté sur ça dimanche passé. La troisième chose, c'est que le premier amour peut attraper un coup de froid. Dis à ton ami, à ton voisin, le premier amour peut attraper un coup de froid. Je suis très sûr que parce que nous sommes à Montréal, nous comprenons facilement ces choses-là. Lorsque l'hiver, il fait moins 30 degrés, et vous sortez sans avoir porté le manteau, vous courez rapidement. Lorsque vous retournez à la maison, vous n'êtes plus capable de bien parler. Vous dites aux gens, j'ai attrapé le coup de froid. Oui, c'est vrai frère. Le premier amour peut attraper un coup de froid. Il peut se refroidir. Aujourd'hui, ça peut être très chaud. Chérie, je t'aime. Quand je ne te vois pas, je ne dors pas. Et pourtant, à minuit, tu dors frère. Et pourtant, à minuit, tu dors bien. Tu rêves même, tu dors très bien, tu as même des rêves. Mais tu dis quand je ne te vois pas, je ne dors pas. Faux, tu dors, frère. Mais après quelques semaines, je ne veux pas te voir dans ma présence. Mais chérie, non, 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 pousse là-bas. Ça, tu as mal préparé, ce n'est pas bon. Cette robe n'est pas bonne. Et toi, tu n'écoutes pas. Donc, tout ça, c'est quoi? C'est que le coup de froid a déjà été le premier amour. Puisque dès qu'il est gelé, là, effectivement, j'aime bien le terme, dès qu'il est gelé, les raisons commencent à se multiplier. Les observations, hein, puisque dans la nature des hommes, ce que j'ai observé chez les hommes, c'est bizarre. Ce que j'ai observé chez les hommes, l'homme ne voit que le mal chez quelqu'un d'autre. L'homme est incapable de voir son propre mal. Hein? C'est toi qui as fait ceci, c'est toi qui as fait cela, c'est toi qui as fait ceci, c'est à cause de toi. Non, même si toi tu arrives en retard, non, c'est à cause de toi que tu es arrivé en retard. Mais c'est toi qui arrives en retard, c'est pas moi. Est-ce que quelqu'un peut donner une main d'acclamation pour toi? Le premier amour peut subir un coup de froid. Il peut être refroidi par plusieurs choses. Je l'ai dit dimanche passé. Il peut être refroidi par les difficultés de la vie. Je suis un bon chrétien, mais j'ai des problèmes. J'ai prié Dieu. Je n'ai pas de solution à mon problème. Au fur et à mesure que le temps passe, je commence à faire marche arrière. Je dis, ah, Ça fait longtemps que je vais à l'église, mon cher, mais ça ne change pas. J'irai, je viendrai, je suis avec vous, je viendrai. Ça, c'est quoi? C'est que, à cause des difficultés de la vie, ton premier amour a commencé à subir un coup de froid. Ça peut être le jugement atroce d'un frère ou d'une sœur dans l'assemblée. Vous passez, vous asseoir. Pourquoi tu m'as marché sur le pied? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Et l'autre dit, mais j'ai quitté ma maison pour aller prier Dieu. Comment se fait-il que j'arrive dans cette église-là? Il y a même un responsable qui me ramasse avec de telles observations. Quand il rentre à la maison, il commence à réfléchir. Est-ce qu'il faut que j'aille encore prier? Non, frère, ce jour, je prie à la maison. Le premier amour a subi un choc. Oh, mais ma soeur, tu n'as pas frotté ton déodorant. Vous savez, quand vous dites ça à une femme, à une jeune dame qui est venue à l'église, et peut-être toi qui lui dis tu es responsable, elle se pèse, elle va dans la toilette, elle va faire ça. Elle dit que non, je n'ai rien de mal, moi je suis en ordre. Et elle se demande comment est-ce que cette soeur-là m'a vu, comment est-ce que ce frère-là m'a vu. Vous avez foudroyé son cœur, frère. Vous avez jeté une douche froide sur son premier amour. C'est pourquoi il est important de faire attention quand on est dans l'église de Dieu. De faire attention avec tous ses gestes. Parce qu'à l'église, je ne protège pas seulement ma propre foi, mais j'ai aussi la responsabilité de protéger la foi de mon frère, la foi de ma soeur. On doit être réservé, frère. On doit être réservé et savoir qu'est-ce qu'il faut dire et qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. Plusieurs choses peuvent être causes du coup de froid qui entre qui vient endommager l'amour, le premier amour d'une personne. Ça peut être aussi les conseils des méchants. Une dame, il y avait une émission à la radio, à la télévision, qui célébrait, qui se réjouissait de ce qui se passe à l'église Nouvelle Vie, comment ils font un bon travail, etc. Et une femme prend son téléphone, elle appelle au studio pour dire que non, cet homme-là, c'est un voleur, il prend l'argent des gens. Depuis que mon fils est allé là-bas, il donne tout son salaire. Bref, ces propos-là visent quoi? S'il parle à son fils, tu vas à l'église, il y a des gens qui ne surveillent que ce que les autres ont donné à l'église. Tu es allé à l'église, tu as donné de l'argent, oui, il se fâche. Mais lorsque cette dame a parlé à la télévision, Dieu merci, c'est le pasteur Hubert qui m'en a parlé, dit que le journaliste l'a reprise, dit que madame, pendant que le gouvernement est en train de couper, non, cette église-là donne des cahiers aux enfants qui vont à l'école, donne la nourriture aux pauvres, fait ce que le gouvernement ne fait pas. Toi, tu as déjà payé un cahier à un enfant démuni. Madame, n'appelle jamais plus ici à la radio. D'ailleurs, on te coupe le téléphone. Elle a été bien sermonnée pour l'aider à comprendre comment les choses se passent. Mais imaginez-vous si le journaliste n'avait pas eu cette promptitude de caractère. Et il aurait pu collaborer avec la femme. Et ça pouvait refroidir la foi ou le premier amour de plusieurs personnes. Bref, il y a plusieurs choses qui peuvent refroidir le premier amour. Mais quelle est alors la thérapie pour que notre premier amour ne puisse pas refroidir? Le verset 5 dit, souviens-toi d'où tu es tombé. C'est-à-dire, passe ta vie en revue, prends conscience de ce que tu faisais il y a quelques années et tu vas voir certainement que voilà à quel niveau j'ai commencé à faillir. Si tu passes ta vie en revue, n'est-ce pas, tu verras par exemple que moi là, j'étais à l'église tous les dimanches de l'année, 52 dimanches et même tous les mercredis de l'année. Tu vas le voir dans ta propre vie. Et tu te regardes aujourd'hui. Aujourd'hui, je commence à aller à l'église un dimanche sur deux. Dès que tu trouves cet écart, n'est-ce pas, c'est que ton premier amour a commencé à prendre un coup de froid. Moi, je ne demande pas que quelqu'un te juge. Je te parle ce matin dans l'objectif de t'amener à rallumer ton premier amour. Moi, là, même malade, je pouvais sortir évangéliser. Je pouvais sortir aller à l'église. Aujourd'hui, je commence à donner des raisons. Hey, j'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête seulement entre 11h et midi pour l'intercession. À 13h, le mal de tête quitte. C'est que la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que ton premier amour est déjà attaqué. Toi là, tu étais à l'intercession, tu aimais la prière, tu adorais la prière. Aujourd'hui, pour quelque raison que ce soit, tu dors, ou tu vas te promener, ou tu programmes d'autres choses. Là où il y a des activités programmées à l'église. Frères, sœurs, ne vous dites pas qu'en le faisant ça, ça ne fait rien. Non, non, ce n'est pas que ça ne fait rien. Dieu est attentif à tous les mini détails de tout ce que nous faisons pour lui. Il est Dieu, il voit tout. Il lit même ce qu'il y a sur nos cœurs. Passe ta vie tout simplement en revue. Ne le fais pas pour faire plaisir à un frère, à une sœur, au pasteur. C'est pour ton éternité. Et si tu passes ta vie en revue, tu vas prendre conscience que oui, sur tel chapitre, mon premier amour a subi un coup de froid. Tel autre a subi un coup de froid. Et ça pourra te permettre de donner la thérapie à ce coup de froid pour que tu puisses guérir et que tu continues à plaire à ton Dieu. Quatrième chose, la patience de Dieu a des limites. La patience de Dieu a des limites. Dans Daniel chapitre 4, nous avons un récit très intéressant. Le roi Nabucodonosor va avoir une vision pendant qu'il dormait. Et dans cette vision, il va voir un grand arbre, un arbre très beau avec un très beau feuillage. Et tous les oiseaux du ciel venaient trouver de la nourriture, se reposer sous l'arbre. Et dans sa vision, il voit un être angélique venir du ciel et crier à haute voix, abattez l'arbre, coupez les branches, enchaînez le tronc jusqu'à 7 ans. Lorsque il s'est réveillé, il a fait venir Daniel pour interpréter sa vision. Et Daniel lui a fait comprendre que le message que tu as vu, c'est un message vrai. Le grand arbre, c'est toi. Dieu t'a fait grâce, tu es devenu grand. Tu as une grande influence, une grande visibilité. Tu aides beaucoup de gens et beaucoup de gens dépendent de toi. Mais il y a un verdict de l'Éternel sur toi et sur ta vie. Dieu va t'enlever ton esprit d'homme et il va le remplacer par un esprit animal. Et tu iras dans la brousse brouter l'herbe comme des herbivores. Mais Daniel termine avec un conseil. Il dit, voici mon conseil, roi, mets fin à tes péchés. Alors tout cela ne va pas t'arriver. Vous voyez, frère, le conseil est là, mets fin à tes péchés. Ici, dans le texte que nous lisons, la Bible dit, souviens-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Sinon, il faut souligner sinon. Amen, l'Église.
Amen.
Sinon est très important dans ce verset. Sinon, qu'est-ce que je ferai? Sinon, je viendrai à toi et je vais te châtier. C'est ça, c'est ce que la Bible dit. En d'autres termes, c'est quoi? En d'autres termes, c'est que la patience de Dieu a des limites. Mais Dieu étant amour, il ne châtie jamais quelqu'un avant de l'avoir rappelé à l'ordre. Dieu a rappelé Nabucodonosor à l'ordre en lui montrant la vision et en envoyant Daniel lui donner la révélation de la vision et même lui prodiguer un conseil. Frère, il faut être attentif au conseil que Dieu te prodigue.
Amen.
Dieu dit, mets terme à tes péchés et ça ne va pas t'arriver. Nabucodonosor a continué à multiplier ses péchés. Conséquence, un matin, toujours au chapitre 4, son esprit d'homme lui a été enlevé. Nabucodonosor est devenu quasiment un animal. Il est allé en brousse, lui qui était roi, il a commencé à brouter l'herbe avec la bouche. Même chose dans notre lettre. Même chose dans notre lettre. La Bible dit, repens-toi. C'est-à-dire, après avoir pris conscience que moi là, je servais Dieu avec cœur. Maintenant, je ne le sers plus avec cœur. Seigneur, je me repens. Je prends conscience que je ne fais plus ce que je faisais pour toi. Repens-toi et reviens à tes premières œuvres. Seigneur, je reviens à ce que je faisais pour toi. J'étais régulier dans ma dîme. Seigneur, je ne la donne pas. Pourquoi? Parce que tel. Je me repens. Seigneur, je reviens aux bonnes œuvres. J'ai chanté dans la chorale, dans l'église. Seigneur, je ne chante plus. Pourquoi? À cause de telles raisons, telles raisons. J'ai compris ton message. Je me repens. Je reviens à mes bonnes œuvres. Seigneur, je venais à l'église 52 fois par année. Je ne veux plus. Seigneur, je me repens. Ça, c'est quoi? C'est l'avertissement de Dieu. Le Dieu que nous servons, non? Il est plein de miséricorde et de bonté, mais il est aussi un fait dévorant. Il commence pour vous prouver son amour. Il commence par vous appeler à l'ordre. Il vous montre les choses. Frère, voilà ce que tu fais. Reviens à tes premières ordres. Mais après, il dit, sinon, là, il intervient en tant que le fait dévorant. C'est-à-dire, l'épée de Damoclès pèse maintenant sur toi. Il dit, sinon, c'est-à-dire, si tu ne te répands pas, si tu n'écoutes pas mon conseil, je vais venir à toi et je vais te frapper. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui sont châtiés. Il y en a d'autres qui sont sous la malédiction de l'Éternel parce qu'ils n'ont pas tout simplement écouté Dieu quand Dieu leur prodigue des conseils. Frère, Dieu est bon, mais il est aussi très méchant. Je vous l'ai dit. La crainte que nous avons de l'Éternel là est à la fois basée sur son amour pour nous et sur sa capacité de faire du mal. S'il a décimé toute une génération de Noé, il est capable de décimer au feu. Il a appelé le feu sur la génération de Sodome et Gomorre. Toute la génération a été pulvérisée. C'est le même Dieu. Il a ordonné à la terre d'ouvrir la bouche. Dathan, Corée, Abiram ont été avalés. C'est le même Dieu, frère. Il y a des gens, jusque dans le siècle présent, il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas mis du sérieux dans leur collaboration avec Dieu. Je vous dis vrai. Si vous lisez bien la Bible et vous aimez votre Dieu, vous allez comprendre que non, on ne se moque pas de Dieu, on ne blague pas avec Dieu. On ne blague pas avec Dieu. Il est capable de tout. Il a fait une petite démonstration à Myriam, à Myriam, tout simplement. Pourquoi? Qu'est-ce que Myriam avait fait de mal? Et pourtant, ce que Myriam disait était presque conforme à ce qu'on apprenait aux Juifs. Moïse, pourquoi toi tu es allé épouser une étrangère? Mais pour avoir murmuré contre Moïse, allez, lèpre d'un coup. Mais il y a un commentateur hébreu qui dit, Dieu dans son amour s'est souvenu que c'est la même Myriam qui avait accompagné Moïse jusqu'au fleuve. C'est elle qui a joué l'espionne auprès de la fille du Pharaon. À cause de ses bienfaits, Dieu s'est souvenu d'elle. Il a dit, pas pour toujours, seulement pour une semaine. Et après, on va te reprendre. Et elle a été reprise. Encore une fois, l'amour de notre Dieu. Aime Dieu, mon frère. Écoute ses conseils et mets-les en pratique. Évite le châtiment de Dieu. La cinquième et dernière chose, et on termine, c'est que Dieu reprend ses bénédictions sur ceux qui écoutent ses conseils. Il dit que à celui qui vaincra, je mange et je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le jardin, dans le paradis de mon Père. À celui qui vaincra ici, c'est tout simplement à celui qui va obéir. Quand je donne mes conseils, à celui qui va écouter mon conseil, je vais lui donner la possibilité de manger de l'arbre de vie qui se trouve dans le paradis de mon Dieu. En d'autres termes, à celui qui va obéir, je vais repartir sur lui toutes les bénédictions d'Abraham. Dieu bénit. Mais Dieu ne bénit que ceux qui obéissent à sa parole. Dieu ne bénit que ceux qui entrent en partenariat avec lui. Parfois, en tant que pasteur, on a beaucoup de problèmes. Je pense qu'Amazon l'avait dit ici. Quelqu'un va venir, pasteur, prie pour moi, j'ai besoin du travail, j'ai besoin du mariage, j'ai besoin des enfants. Vous priez pour lui, ça ne vient pas. Vous vous demandez même, Seigneur, pourquoi ça ne vient pas? Alors que lui, il connaît comment il conduit sa propre vie. Donc, il vous met en difficulté, même dans des jeûnes multipliés, au lieu de manger le foufou, vous êtes en train de jeûner. Mais lui, il sait. Et quand quelque chose n'arrive pas, non, ce pasteur-là n'a pas de puissance. Non, le pasteur n'a pas de puissance. C'est Dieu qui est puissant.
Amen.
C'est Dieu qui opère. Ce n'est pas le pasteur qui opère.
Amen.
Et si Dieu n'a pas opéré, ce n'est pas ma faute, c'est Dieu. Toi et moi, nous prions le même Dieu. Mais pendant ce temps, toi, tu ne dis pas ce que tu fais. Comment tu n'obéis pas à ce Dieu? C'est le partenariat avec Dieu, frère, qui est à l'origine de beaucoup de choses. Je vous ai parlé du premier amour. Je vous ai encouragé à aimer votre Dieu de tout votre cœur. C'est l'unique grand cadeau que Dieu nous fait aujourd'hui. Et je termine en vous disant que si vous n'aimez pas Dieu avec tout votre cœur, il y a un sinon. Vous pouvez compléter vous-même. Sinon, c'est ce que Dieu dit. Vous complétez vous-même. Mais si vous l'aimez avec tout votre cœur, si vous reprenez, vous revenez à votre premier amour, eh bien, attendez-vous que le ciel sera ouvert sur votre vie et Dieu va vous bénir richement parce qu'il est le Dieu qui donne sans jamais s'appauvrir. Alors, nous allons nous tenir debout. Je vais t'inviter à prier pour toi, à passer ta propre vie en revue. Certainement, si tu ne trouves rien, c'est que tu as mal scanné ta vie. Donc, je te demande de bien scanner ta vie. Certainement, tu vas trouver des choses qui ont apporté un coup de froid à ton premier amour. Et je vais t'inviter à te repentir. Ne prie même pas haute voix si tu ne veux pas que le voisin entende. Je n'ai même pas besoin que le voisin entende, que Dieu t'entende. Prie, demande à Dieu, je me repens. Et à partir d'aujourd'hui, reprends la chaleur de ton premier amour pour ton Dieu. Alors, les portes du ciel seront ouvertes sur ta tête. On se tient debout, nous prions chacun pour rallumer lui-même la flamme de son premier amour pour Dieu. Que ce soit les musiciens, nous tous nous prenons d'abord un temps où nous allons prier, verser notre cœur. Ça peut être à haute voix, ça va. Ça peut être intérieurement sa voix. Mais prends conscience que tu dois répandre ton cœur devant Dieu, tu dois te repentir et tu dois prendre la décision de revenir au premier amour pour ton Dieu aujourd'hui. Élève ta voix et prie. Alléluia.